Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 20 février 2020. Nous sommes le troisième jeudi du mois, cela signifie que vous avez rendez-vous avec l'Histoire, la mémoire ouvrière locale, l'émission réalisée en collaboration avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. C'est la deuxième émission de cette année, enfin 2020, hein, après celle de janvier bien entendu. Rendez-vous donc avec une nouvelle émission, la mensuelle GREMOS. Aujourd'hui, une invitée aux côtés de Catherine Gauthier et Jean-Michel Stenner, membres tous deux du GREMOS. Bonjour à vous, tout d'abord.
Bonjour Lionel.
Et vous accueillez aujourd'hui Morane Chavanon, qui a réalisé une thèse autour de la question pour la thématique du jour, le retour d'un passé migratoire refoulé, question posée, les mémoires de l'immigration au cœur de nouvelles mobilisations citoyennes, une comparaison entre les villes de Villeurbanne et Saint-Étienne. Morane avait déjà eu l'occasion d'aborder finalement cette question lors de la journée d'études de 2015 du GREMOS. Après celle tout juste passée, on fait un petit flashback. C'était en novembre 2015, de l'usine à la cité, immigration et engagement depuis les années 70. Et Morane avait eu l'occasion d'intervenir dans ce cadre-là. Morane Chavanon, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur le 895 de Duo. Je cède bien volontiers la parole et les micros à Jean-Michel, Catherine et Morane donc pour cette émission du jour.
Eh bien Lionel, t'as tout dit. On va rappeler effectivement que Morane était présente dans cette, ces rencontres de novembre 2015 qui ont eu lieu, si, pour certains s'en rappelleront peut-être, ce funeste jour du 13 novembre, donc le soir des attentats. Enfin, la journée, c'était, on a appris les attentats le soir. Donc c'est vrai que notre sujet était porté déjà sur l'immigration, sur l'engagement dans la cité, dans l'usine. Et Morane était en train de faire une thèse. Et donc nous attendions avec impatience d'avoir le résultat de ces travaux. Et bon, Lionel a présenté son titre. Je vais passer la parole tout de suite à Catherine pour demander un petit peu, entamer ce dialogue avec toi, Morane. Et je te remercie au passage d'avoir accepté et d'avoir fait ce trajet depuis Lyon et même depuis Annonay pour venir nous voir aujourd'hui.
Merci. Alors juste préciser un petit peu les choses autour de ta thèse. Donc c'est une thèse de sociologie politique. Le titre exact de la thèse, « La guerre des mémoires n'aura pas lieu, construction d'une demande sociale de mémoire rapportée à l'immigration et nouvelles luttes symboliques au pluriel, les nouvelles luttes symboliques ». Donc c'est une thèse qui a été soutenue le 14 février 2019, donc nous fêtons son premier anniversaire.
C'est vrai.
Et c'était le jour de la Saint-Valentin, mais c'est sans rapport aucun. Et donc c'est une thèse qui a été soutenue à Lyon 2, au département de sciences politiques, sous la direction de Nathalie Dompnier, qui est politiste.
Oui, c'est ça.
Alors cette thèse, tu vas pouvoir nous en expliquer un petit peu la démarche, etc. Mais on peut déjà dire que c'est une thèse qui s'appuie sur une enquête ethnographique. Peut-être que tu pourras justement nous rappeler un peu plus tard dans l'émission en quoi ça consiste, une enquête ethnographique, qui s'est déroulée sur 4 ans, donc à partir de 2012, je crois, à peu
oui,
près.
Oui, c'est ça, jusqu'à 2016.
D'accord. Et qui est menée donc dans le cadre d'une comparaison entre les situations des deux villes dont nous a qu'a cité Lionel, c'est-à-dire la nôtre, Saint-Étienne, et la ville de Villeurbanne. Donc cette thèse porte sur la thématique mémorielle et sur à partir du constat de la montée en puissance de revendications pour une reconnaissance de cette mémoire de l'immigration. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a conduit à traiter un tel sujet? Comment, dans ton parcours de chercheur, de jeune chercheur, tu as eu à un moment donné envie de travailler sur cette question?
Oui, alors j'ai commencé à m'intéresser à cette question déjà dans le cadre de mon Master 2, mais en fait je m'intéressais surtout à la guerre d'Algérie et aux mémoires de la guerre d'Algérie. Et donc j'avais choisi de rencontrer une quinzaine de jeunes d'origine algérienne pour essayer justement de comprendre quel était leur rapport à ce passé-là. Et donc, je m'étais aperçue que c'était largement déjà un bricolage entre la mémoire transmise à l'école, la mémoire et surtout les trous de mémoire qui existaient dans les récits familiaux. Et donc, j'avais compris que la question du besoin de mémoire, dont on dit sans cesse qu'elle traverserait tous les descendants de l'immigration, elle n'était pas aussi évidente. Donc, j'ai réalisé un mémoire principalement à partir d'entretiens, de récits de vie. Et après, dans le cadre de ma thèse, j'ai voulu élargir un peu le regard et m'intéresser plus largement à l'émergence justement de cette idée d'un besoin de mémoire lié à l'immigration dans le débat public. Et là, je me suis aperçue que ça convoquait la sphère politique, les médias aussi, mais également des acteurs pluriels qui allaient être partie prenante, des universitaires, des militants, etc. Donc c'est, on va dire, dans mon parcours de recherche, c'est ce cheminement que j'ai eu. Après, peut-être pour préciser que j'ai réalisé mes recherches donc, dans les années 2000, et notamment après 2005, et c'est un contexte qu'on qualifie, il y a certains chercheurs, notamment Romain Bertrand, pardon, qui a parlé de « guerre ouverte des mémoires du fait colonial », donc les controverses mémorielles autour du passé migratoire et colonial, était vraiment un objet chaud, en fait, dans la seconde partie des années 2000. On avait la fameuse loi du 23 février 2005, et donc toutes les polémiques autour de l'article 4 qui voulait que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle dit positif. Donc c'était vraiment...
De la colonisation.
De la colonisation, tout à fait.
Sous quel gouvernement ?
Alors, 2005, du coup, c'était Chirac, on était après 2002, c'était Raffarin. Et c'était aussi le moment où on réfléchissait à la création d'un musée de l'immigration. Donc il y avait vraiment ces questions de dans quelle mesure les enjeux autour de la place de l'immigration dans la mémoire nationale peuvent influer ou pas sur les enjeux contemporains de la présence immigrée.
C'est donc, aussi l'année des émeutes dans les cités.
Tout à fait. Et le lien a très rapidement été fait. C'est-à-dire que quand on a parlé de cette loi, et notamment son article 4, à la base, la polémique, elle provenait plutôt des historiens professionnels qui voyaient une ingérence du politique dans leur métier. Mais dans les prises de parole politiques, c'était très vite un lien entre le rapport des descendants de l'immigration à la République. Et donc, comment est-ce que dans l'écriture du roman national, il pouvait y avoir une relation de cause à effet. Donc on avait ceux pour qui il fallait absolument se prémunir de toute repentance et ceux pour qui, au contraire, il fallait reconnaître les ancêtres colonisés pour favoriser une identification plus forte à la République française. Donc on avait ces enjeux politiques et mémoriels très imbriqués. Et ça a donné lieu ça a imprégné pas mal de travaux sur cette question. Et...
On précise quand même que ces enjeux concernent bien entendu les immigrés et descendants d'immigrés, mais ils concernent aussi les Français et leur regard le regard qu'ils portent sur les immigrés.
Oui, tout à fait. Pour ça que je parle de besoin, de demande sociale de mémoire rapportée à l'immigration, parce qu'il y a toujours cette double croyance. On aurait un besoin de mémoire de la part des descendants de l'immigration, mais on aurait un besoin de mémoire aussi de la société dans son ensemble à l'égard donc des ressortissants de l'immigration. Donc c'est toujours un petit peu co-construit comme ça.
Et c'est particulièrement vif à Saint-Étienne et à Villeurbanne, parce que c'est des villes dans lesquelles l'immigration a joué un rôle important.
Oui, alors...
Déjà... ouvrière.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis la région Rhône-Alpes, en fait, est aussi un terrain qui est très important pour les initiatives de reconnaissance de l'immigration comme part légitime du patrimoine national, notamment via la DRAC et puis ensuite via une association que vous connaissez bien ici, qui est l'association Trace. Dès la fin des années 90, on a cet enjeu-là qui est porté.
Il y a le grain aussi, le RIS, effectivement.
Oui, tout à fait. Le musée dauphinois aussi à Grenoble. On a eu plusieurs initiatives portées. Et puis, c'est une région industrielle, à l'histoire industrielle forte. Donc, on a eu beaucoup de flux migratoires qui sont venus grossir un petit peu les rangs de la main-d'œuvre locale. Donc, les enjeux de mémoire me semblaient intéressants dans cette région. Et concernant la comparaison entre Villeurbanne et Saint-Étienne, ce qui m'intéressait, c'est que pour autant, si on a une histoire proche, le rappel du passé, il prend pas forcément la même forme. Et c'est ça qui m'intéressait. Peut-être qu'on pourra en discuter plus tard. Mais...
Oui, Morane, moi je voudrais qu'on souligne effectivement ton approche qui est un petit peu singulière, une certaine originalité, du fait de cette insistance sur l'importance du contexte politique, même s'il est rappelé dans d'autres travaux. Mais peut-être que tu peux, justement, en venant de cet univers des sciences politiques et en nous faisant une sociologie politique, tu apportes des éléments d'éclairage particuliers, et puis notamment sur cette question des enjeux de légitimité et de la question des inégalités. Donc est-ce que tu peux nous revenir un peu sur cet aspect-là?
Oui. Alors, en effet, donc, en lien avec ce qu'on disait sur le contexte national, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, plus que le contenu, finalement, des mémoires qui allaient ressurgir, c'est comprendre ces controverses mémorielles récentes autour du passé migratoire. Et sans s'en tenir, donc, aux enjeux législatifs, aux débats politiques, il m'apparaissait vraiment important d'aller dans des territoires, des contextes locaux, pour suivre les mobilisations citoyennes qui émergeaient autour de la reconnaissance des mémoires d'immigrés. Donc le pas de côté que j'ai un petit peu fait, c'est de, d'une part, me décentrer par rapport au seul souvenir et ne pas partir avec le questionnement du rapport entre un groupe précis et sa mémoire, mais plutôt partir des mobilisations qui émergeaient autour du passé immigré, pour décrypter les revendications un peu sous-jacentes, les logiques d'engagement, qu'est-ce qui fait que des gens vont finalement revendiquer la légitimité de la place de l'immigration dans l'imaginaire national, le patrimoine, et dans quelle mesure porter ces revendications mémorielles, ça participait de la défense de la cause de l'immigration. Souvent, en fait, derrière cette reconnaissance mémorielle, il y a l'idée d'une transformation des représentations de l'immigration et des immigrés pour influencer les relations sociales contemporaines. Et par exemple, ça a pu être porté par des acteurs qui luttaient contre les discriminations ethno-raciales ou qui luttaient sur la question des quartiers populaires.
Donc, tu penses à quels acteurs, par exemple?
Un exemple concret, ce serait bien.
Alors, par exemple, à Villeurbanne, donc du coup le deuxième terrain que j'ai enquêté, donc j'ai particulièrement suivi un groupe d'habitants qui s'appelait l'Interquartier Mémoire et Patrimoine, dont une partie des membres faisait aussi partie du comité consultatif villeurbanais de lutte contre les discriminations ethniques, et ils ont réalisé un film autour des mémoires du bidonville du Shaaba, qu'on connaît peut-être avec l'ouvrage « Le Gaune du Shaaba » écrit par Azouz Begag, qui a grandi du coup dans le bidonville. Et il y avait cette idée qu'en faisant ressurgir ces mémoires qu'on connaît peu, c'était une manière d'apporter un regard dit plus positif sur l'immigration, sur la possibilité, alors je cite une de mes enquêtées, qui disait la possibilité de ces immigrés de s'être fondus dans la masse finalement. Donc il y a cette idée de déconstruire les représentations négatives du fait migratoire en voilà, mettant en lumière ces mémoires-là, ce passé-là. Donc il y a vraiment un lien entre, en passant par le symbolique finalement, participer à lutter contre...
Et sur Saint-Étienne, alors du coup, quels sont les acteurs qui sont du même ordre?
Ouais. Alors à Saint-Étienne, j'ai rencontré plusieurs des acteurs un peu pluriels, puisque l'un des partis pris de ma thèse, c'était d'assumer que les mobilisations mémorielles, elles sont plurielles, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des projets artistiques, des projets menés dans des instances participatives, comme le conseil de quartier.
Oui, donc des projets qui prennent des formes différentes.
Tout à fait, ou des associations. Et par exemple, à Saint-Étienne, j'ai suivi une association donc, qui s'appelle Carton Plein, peut-être que vous connaissez, la connaissez. Et dans le cadre du projet de réhabilitation du centre-ville, il y avait une volonté de mettre en avant la place du passé migratoire dans le tissu urbain, dans l'histoire de ce quartier.
Volonté de leur part ou de la part des politiques?
Alors, c'est là où c'est intéressant, puisque en fait, à Saint-Étienne, on a vraiment une action politique transversale depuis les années 2000 sur l'image de la ville. Et donc une volonté de revaloriser par le symbolique, par l'urbain finalement la ville, pour en faire un territoire plus désirable pour d'éventuels nouveaux habitants, nouveaux investisseurs.
Plus attractif.
Plus attractif, voilà. Et donc le projet de cette association s'inscrit quand même pour partie dans ce travail symbolique, mais en y incorporant la part immigrée. Donc il y avait cette
idée.
Oui, et
en prenant un peu le contre-pied aussi, justement avec la part habitante, quoi, en général.
C'est ça. C'est-à-dire finalement avoir contre un marketing urbain qui est ficelé comme tel et qui a un vrai objectif économique, on va dire. Là, il y avait la volonté de réintroduire la part populaire et les mémoires sociales qui existent aussi dans le bâti. Et donc, on faisait directement le lien entre les mémoires qu'on pouvait recueillir et puis l'impact au présent qu'on voulait avoir, c'est-à-dire une revalorisation de cette présence habitante immigrée, quoi.
Alors, du coup, est-ce que tu dirais que le travail mémoriel qui a été fait à Saint-Étienne vient plutôt des pouvoirs publics ou plutôt des acteurs?
Alors,
Alors
justement, c'est un point de ma comparaison, c'est que, et donc et ce qui permet bien de mettre en regard les deux contextes municipaux, c'est qu'à Villeurbanne, on a vraiment une mémoire locale qui est enrôlée au service de la politique municipale. Et c'est notamment le projet du RIS, un centre mémoire et société, qui veut valoriser la mémoire du territoire ouvrière immigrée. C'est un projet municipal qui a été porté dans la campagne de Jean-Paul Brett à l'époque, pour sa première campagne à la mairie de Villeurbanne en 2001.
Candidat socialiste.
Donc il y a vraiment cette idée que la construction de l'identité populaire villeurbanaise, en exaltant un petit peu son passé, c'est un projet politique d'emblée. Alors qu'à Saint-Étienne, on a des pouvoirs publics qui sont beaucoup plus en distance par rapport à la question du passé, ou du moins qui vont le mettre à profit d'autres objectifs, notamment l'attractivité territoriale. Donc on a une reformulation du passé proprement industriel. En revanche, la question des mémoires sociales, ouvrières, immigrées, elle est beaucoup plus portée par des mobilisations qui sont au carrefour d'actions citoyennes, mais aussi de démarches scientifiques, et donc qui donnent lieu parfois à des protocoles un peu spécifiques, des recherches-actions par exemple, mais qui empruntent donc aux formes de l'action aussi citoyenne, en impliquant les gens, etc. Mais donc c'est beaucoup plus à distance du pouvoir municipal, donc c'est ça l'intérêt en fait de la comparaison aussi.
Oui, on dira qu'à Saint-Étienne, la municipalité est plutôt de tendance centriste, centre-droit, et qu'elle privilégie plus le passé industriel que le passé ouvrier. Tu as insisté sur le passé ouvrier pour Villeurbanne.
Ouais, c'est ça.
Plus exactement, qu'elle essaye de déconnecter le passé ouvrier du passé industriel.
Oui. Alors après, il y a eu quand même des épisodes pour être un peu nuancé un petit peu ça. Il y a eu quand même le mandat de Maurice Vincent, où il y a eu des débuts d'actions qui n'ont pas été forcément à son initiative, mais qui ont trouvé un écho à ce moment-là, sur lequel il a pu apporter une forme de soutien, je pense, au travail que j'avais pu réaliser au Puy Courriot, mais je pense à ça parce que c'est très concret dans ma tête, mais où en plus ça servait aussi le discours sur l'histoire minière dont il faisait un peu sa singularité identitaire. Donc il y a des enjeux qui ont pu converger à un moment donné. Et puis, je pense à... Voilà, donc il y a le Puy Courriot qui parfois a fait, mais tard, émerger cette thématique. Et puis les archives municipales aussi qui ont un peu... Et départementales, les premières d'ailleurs, qui avaient amorcé les travaux.
Et justement, de ce point de vue, c'est pour ça que je dis à distance, parce qu'on n'a pas le cas d'un contexte municipal où on aurait une opposition franche.
Oui.
Mais c'est plutôt, là, ce qui va jouer, c'est qu'on a plusieurs leviers d'action publique et plusieurs niveaux. Et par exemple, pour les initiatives dont tu parles, il y a aussi l'importance de l'appel à projet Mémoire du XXe siècle en Rhône-Alpes, qui est à la fois porté par le ministère de la Culture à travers la DRAC et puis par le Conseil régional. Et c'était l'un des enjeux de ma thèse, de suivre la notion de mémoire comme catégorie qui existe aussi dans les répertoires d'action publique. Et donc ça permettait aussi de montrer que il y avait une imbrication entre les échelles, le local, le national, parfois même l'international, avec le patrimoine culturel immatériel. Et donc que tout n'était pas entre les mains de la municipalité. Et donc les acteurs locaux pouvaient jouer aussi sur ces différentes possibilités.
Alors à Saint-Étienne, il y a un débat qui commence sous la municipalité étiolière, quand il devient pleinement maire, c'est-à-dire en 1995, sur le statut de ville d'art et d'histoire. Et je crois que tu as accordé une part assez importante à cette question. Finalement, comment on définit l'histoire de Saint-Étienne dans ce projet, mmh. et quelle est la part de l'histoire ouvrière, mmh. et de l'immigration.
Ouais. Alors, en effet, je me suis intéressée, c'est une partie de ma méthode, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai fait de l'analyse de documents, justement dans cette perspective d'analyser les usages aussi de la mémoire du côté de l'action publique. Et donc, j'ai étudié le dossier de candidature de Saint-Étienne aux différents labels qui ont été obtenus, donc ville créative de design, ville de la capitale de la culture, donc qui a été perdue au profit de Marseille, et donc ville d'art et d'histoire. Et j'ai analysé aussi l'évaluation qui a été faite du dossier. Et ce qui apparaît, donc c'est un label Ville d'art et d'histoire qui est attribué par le ministère de la Culture, c'est que le dossier de Saint-Étienne, il se dégageait particulièrement puisque d'emblée, on voyait que le patrimoine était censé être un maillon dans une action publique transversale plus large qui était encore une fois tendue vers l'attractivité du territoire. Et que d'emblée, ce qui se présente, c'est qu'on doit un petit peu construire ce patrimoine stéphanois qui, dans le texte, est souvent présenté comme peu visible, modeste, peu valorisable. Et donc, en dépit de ce qui est présenté comme des défauts, eh ben, on doit pouvoir le mettre au service d'une remise sur le marché en fait, de la ville de Saint-Étienne. Donc, il y a ce jeu entre on doit gommer un stigmate, la ville noire, et en même temps, on doit essayer de construire un patrimoine qui peut être valorisable dans cette volonté d'attractivité territoriale. Et donc le dossier, il est vraiment très intéressant de ce point de vue parce qu'il joue donc sur ces enjeux.
Un peu paradoxaux. Mm-hmm. On va donc faire une première pause musicale. Eh bien, vous êtes sur Radio Dio dans l'émission mensuelle du Grémos. Nous recevons aujourd'hui Morane Chavanon qui nous parle des résultats et des travaux qu'elle a faits pour préparer sa thèse sur la mémoire de l'immigration. Morane, pourquoi ce choix musical ?
Alors, ce choix musical, c'est aussi le choix d'un clip. C'est un très beau clip qui a été tourné au Maroc. Et avec un comédien franco-marocain Et donc quand j'entends cette musique, ça me fait penser à ce clip-là, et donc ça me permet d'inviter les gens à aller regarder un petit peu ça.
Il a un titre ce clip ?
Alors c'est Territory, et le groupe c'est The Blaze.
Et puis Morane, on peut préciser que l'histoire de ce clip, c'est l'impression que j'ai eue, hein, c'est d'un retour au pays.
Oui, c'est ça.
Hein, donc d'une personne qui revient sur ses terres d'origine, et au Maroc en l'occurrence.
Oui, tout à fait.
En retrouvant son environnement, sa famille, ses proches.
Exactement, donc il y a un peu des enjeux aussi de mémoire.
Eh bien Morane, on revient à ton sujet, et dans ce pas de côté que tu as fait pour mener ton enquête, donc tu as rencontré un certain nombre de personnes. Est-ce que tu pourrais peut-être éventuellement faire un panorama global et puis nous parler des personnes qui t'ont le plus marqué?
Oui, alors c'est aussi ça qui me semble intéressant dans le... Voilà, si on compare un petit peu les disciplines qui vont traiter du passé, à travers la démarche sociologique, l'enjeu c'était de repérer des mobilisations autour du passé migratoire et de pouvoir en faire un suivi, de pouvoir moi-même me transformer en participante certaines fois. Donc à Villeurbanne et Saint-Étienne, j'ai suivi un certain nombre de mobilisations. Donc notamment à Villeurbanne, j'ai beaucoup suivi l'interquartier Mémoire et Patrimoine. Donc j'ai pu réaliser des entretiens biographiques avec ses membres. Et à Saint-Étienne, j'ai observé plusieurs mobilisations donc dans le centre-ville de Saint-Étienne, donc notamment près de Carton-Plein. J'ai pu participer aux marches urbaines qui étaient organisées dans le centre. J'ai également participé à une marche d'une semaine en 2014 qui avait été organisée par, à l'époque, elle était doctorante et puis elle est par ailleurs artiste. Une marche d'une semaine sur les traces des luttes ouvrières et immigrées. Donc j'ai fait.
De qui ? Tu n'as pas dit le nom.
C'était Aude Fourel. Ça a donné lieu à un article d'ailleurs qu'on a écrit à plusieurs mains. Et donc l'idée c'était de dormir chez l'habitant, traverser la vallée du Gier, rencontrer des témoins à chaque fois. Donc j'ai fait ça en entier. Donc l'idée c'était vraiment de faire ce qu'on pourrait dire une ethnographie du travail mémoriel. J'ai appelé ça comme ça dans ma thèse. Et j'ai aussi été sollicitée par les archives municipales au moment de l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine pour essayer d'accompagner un petit peu et de questionner la place qu'on pouvait accorder aux mobilisations mémorielles qui émanaient des quartiers populaires, etc. Donc pour beaucoup, en fait, elles étaient en partenariat avec des écoles, des centres socioculturels. Mais donc voilà, le travail concret d'une institution qui va mettre en patrimoine un petit peu le passé, j'ai pu le voir de l'intérieur.
Oui, donc en jargon sociologique, on appelle ça de l'observation directe et de l'observation participante.
Tout à fait, c'est absolument ça. Et pour les récits de vie, j'ai vraiment rencontré des gens qui se sont impliqués à différents titres dans ces mobilisations. Donc ça pouvait être des présidents d'associations, des gens qui allaient être plutôt partie prenante de ces mobilisations, mais parce qu'ils occupaient une place dans une institution. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui, sur le terrain, étaient appelés ou s'auto-appelaient un petit peu des grands témoins, notamment à Saint-Étienne, un ancien directeur de centre social qui est bien, bien connu des mobilisations mémorielles. Et donc j'ai fait plusieurs entretiens auprès de lui pour reconstituer un petit peu sa trajectoire et voir comment est-ce qu'il s'est intéressé en fait à cette cause-là, comment est-ce qu'il a voulu s'impliquer. Et puis on découvre que l'un de ses cousins, c'est un grand sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Donc très tôt, il a eu un contact avec la sociologie. Et donc il occupe un statut un petit peu de personnage ressource dans les mobilisations stéphanoises.
Tu veux parler d'Alaa Wabaka ?
Exactement, qui apparaît aussi dans l'exposition, du coup, Saint-Étienne Cosmopolitaine. Donc finalement, c'est des gens qui se sont rapprochés de la cause mémorielle, mais pour plein de raisons, et pour certains, pas nécessairement du fait d'un partage intime de ces souvenirs-là, qui y arrivaient plutôt par une volonté de lutter contre les discriminations, etc.
Et dans la marche dont tu as parlé à travers la vallée du Gier, tu évoques l'épisode de l'usine J.B. Martin. J'aimerais que tu t'explicites un petit peu, parce que je trouve que c'est un exemple tout à fait intéressant sur cette notion de mémoire vécue différemment selon les personnes.
Oui, alors tout à fait. C'est un... on va dire, le cas d'une scène que j'ai mis en avant dans ma thèse, parce que justement, elle était porteuse un petit peu de contradictions non prévues. C'est-à-dire que c'est un peu le suivi de ces mobilisations. Ça permettait de recueillir le spontané, le non maîtrisé. Et là, en l'occurrence, cette marche d'une semaine, elle laissait une large part à ça. Donc, en fait, le groupe de marcheurs, qui regroupait une quinzaine de personnes en moyenne sur les 7 jours de la marche, on est allé rencontrer devant l'usine J.B. Martin, aujourd'hui fermée, deux anciens syndicalistes qui sont venus nous raconter un épisode d'occupation d'usine.
Tu te rappelles ce qu'était J.B. Martin ?
Alors J.B. Martin, c'était une usine de velours. Et du coup, qui a donc de textile, de velours, qui a cessé ses activités. Et en 78, il me semble, il y a eu un épisode d'occupation d'usine avec intervention des forces de l'ordre très violentes, etc. Donc il nous évoque ce souvenir-là. Et puis à la fin, s'ensuit une discussion basée sur le fait que juste en face, on a l'usine Gillet, dont la façade est patrimonialisée, puisqu'il y a une très belle horloge. Et donc, un marcheur, par ailleurs artiste, pose la question aux anciens syndicalistes, mais pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a rien ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de projet patrimonial ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas valorisé ce passé-là ? Et en fait, les deux syndicalistes n'ont pas compris la question. Pour eux, il y avait eu une valorisation du passé industriel, puisqu'il y avait une tentative de reprise en scop avec une fabrication de peluches. Et donc, pour eux, la revalorisation du passé industriel, c'était ça.
C'était la scop.
C'est ça, la volonté, comme ils le disent eux-mêmes, de repartir la tête haute en reprenant la production.
La prise en main par les ouvriers.
Exactement. Et donc, on voyait un petit peu ce décalage de regard, on dit en socialement situé, sur le passé industriel, finalement.
Et je rappelle que l'usine de Gillet-Taon, qui est en face, est occupée par le CERPI.
Oui.
Qui est une association que tu as rencontrée, peut-être aussi, non ?
J'avais pas eu le temps de
les chercheurs qui ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire ouvrière.
Oui.
Des techniciens et des ingénieurs.
Oui. Voilà.
Et donc, cet épisode de J.B. Martin t'a profondément marqué, quand même. Cette vision qu'avaient les ouvriers de leur propre mémoire. Et quelle est la part d'immigration dans cet exemple ?
Alors ça, c'était intéressant aussi, parce qu'en fait, on voyait bien que ces mobilisations mémorielles, elles convoquaient une sorte de double invisibilité des immigrés. C'est-à-dire que, quand même, la manière dont on va recueillir le passé ouvrier, le plus spontanément, les porte-paroles qu'on va rencontrer, c'est des gens qui ont eu des activités syndicales. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà des représentants du monde ouvrier. Et quand on s'intéresse à la place des immigrés dans le monde ouvrier, on a une première source d'invisibilité qui est que les travailleurs immigrés se syndiquaient peu. Donc, dans l'activité de représentation, ils étaient assez peu présents. Et du même coup, ça se double en fait d'une invisibilité mémorielle, c'est-à-dire que les traces qu'on va garder de cette histoire-là, elle va d'autant plus invisibiliser les ouvriers.
Alors c'est ressenti par les générations, les jeunes générations, parce que là finalement cette action mémorielle, elle concerne des gens qui sont partis à la retraite, qui ont connu la fin de l'industrialisation et le début de la désindustrialisation, et donc l'impact sur les jeunes générations finalement est double, parce que c'est aussi... C'est l'effet de l'immigration et c'est l'effet de la désindustrialisation. Donc là, tu l'as ressenti, ça ?
Alors, là où j'ai pu le prendre en compte, alors c'est un double niveau, c'est que déjà le fait que forcément les descendants de cette histoire-là vont s'intéresser à leur passé, c'est largement un présupposé. C'est-à-dire que finalement, et donc ça rejoint la déconstruction du besoin de mémoire, c'est que finalement... Ça ne va pas de soi, en fait, qu'on s'intéresse à son passé. Et donc, il y a cette idée que, nécessairement, les héritiers de cette histoire migratoire s'y intéresseraient. Et en fait, ils sont généralement convoqués dans ces mobilisations comme public captif. Souvent, ça passe par le scolaire, etc. En revanche, la désindustrialisation et ses effets, elle a un sens du point de vue du contexte politique. Puisque, par exemple, à Villeurbanne et à Saint-Étienne, on n'a pas eu les mêmes conséquences de la désindustrialisation. À Villeurbanne, pardon, on a eu une tertiarisation, on va dire, de l'économie. Pour reprendre les termes de Philippe Videlier, on est passé de l'usine au bureau. Et puis, il y a la proximité avec Lyon. À Saint-Étienne, ça a été beaucoup plus difficile. Ça a impacté l'économie locale beaucoup plus durement. Et donc ça joue, par contre, sur l'évocation du passé.
Toujours dans l'émission du Grémos, donc nous sommes avec Morane Chavanon et Catherine Gauthier qui a quelque chose à demander à Morane.
Oui, il y a une hypothèse forte dans ton travail sur laquelle je voudrais que tu reviennes, c'est cette question qui est... parce que tu évoques des jeux d'acteurs, la question des inégalités, les enjeux de mémoire... Et il y a une posture de intellectuelle particulière que tu as, celle de considérer les choses depuis la question de l'action réciproque. Donc, pour être un peu plus, pour parler un peu plus à tout le monde, c'est le fait qu'une réalité sociale peut être considérée, approchée, comprise du point de vue d'une co-construction, c'est-à-dire que les acteurs, même s'il y a il peut y avoir des rapports, disons, pour parler comme Bourdieu, des rapports de domination et des inégalités, il n'en reste pas moins que les différents acteurs, agents, entrepreneurs de mémoire ici, peuvent avoir une action combinée et interagir pour construire ensemble un phénomène social. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer par rapport à ton sujet ?
Oui, alors, dans le cadre de mon sujet, l'enjeu de la co-construction, c'était de mettre en avant la co-construction de la cause mémorielle qui implique les citoyens, mais aussi l'action publique. C'est-à-dire que ça permettait un petit peu d'écarter deux grandes idées reçues sur le retour des mémoires refoulées. C'est pour ça que je mettais un point d'interrogation pour le titre de mon intervention aujourd'hui.
Mmh. C'est la question de la guerre de mémoire, oui.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on a deux manières d'entendre les enjeux de mémoire, surtout autour de l'immigration. La première, ce serait on assisterait à un retour du refoulé et on ne l'explique pas davantage, c'est-à-dire qu'on mobilise des termes psychanalytiques, mais on les transpose à la société. Mmh. Donc ça, c'est le premier... grand élément de croyance. Et la seconde chose, c'est qu'on a tendance à présenter le retour du passé migratoire dans le débat public à la faveur d'une concurrence des victimes ou d'une guerre des mémoires. Et ça, très clairement, je pense, alors j'ai pu seulement l'esquisser à la fin, mais c'est les traces d'une panique du communautarisme, c'est-à-dire une vision de la présence immigrée sous l'angle d'une phobie de communauté qui serait autonome, alors qu'on sait sociologiquement que ce n'est pas vrai. Moi, à la part de mon enquête, j'ai l'impression que c'est aussi de montrer que les communautés de souvenirs, elles ne sont pas les seules actrices de l'arrivée de telle ou telle mémoire sur le devant de la scène publique. Et que concernant l'immigration, on a certes le rôle d'acteur mobilisé, mais on a une large action qui provient en fait des pouvoirs publics. Et en fait, la question mémorielle, elle se pose en fait du côté de plusieurs institutions qui vont faire bouger la manière de concevoir l'immigration. Mmh. On a par exemple au Haut Conseil à l'intégration des réflexions sur la façon de reconnaître la dette des travailleurs immigrés pour mieux s'assurer d'une loyauté d'appartenance de leurs fils. On a aussi la politique de la ville qui va partir du principe qu'en valorisant la mémoire des habitants, on gérerait finalement l'image des quartiers populaires. Donc on a quand même des acteurs qui n'évoluent pas hors de tout terrain politique. Et donc cette question des représentations de l'immigration, du passé migratoire pour traiter dans l'action publique ses effets, elle est en fait portée aussi du côté des institutions. Donc la co-construction, c'est un petit peu entre institutions et acteurs mobilisés.
Moi, je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce qu'en même temps, elle est ni misérabiliste, ni elle place les publics en position soit de force d'engagement, soit de sincérité, soit de rationalité. Ça montre que chacun des acteurs tient une place différente, peut avoir des causes convergentes, mais des enjeux aussi et des intérêts convergents ou divergents, et qu'en même temps, cette question de la co-construction, ça montre que tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se réalise, pas forcément à la même hauteur et dans les mêmes proportions, mais tout le monde a une part de responsabilité. Et aussi, tout le monde a une part d'approximation, quoi. Personne ne maîtrise complètement ce qui va être fait parce que c'est précisément un jeu d'acteurs et que c'est un jeu collectif.
Ouais.
Et qu'il peut y avoir des périodes où certains sont en rapport de force au détriment d'autres, mais que ça circule tout ça et que voilà, des surfonds de contextes locaux et nationaux, comme tu l'as bien rappelé.
Morane, tu nous proposes une deuxième pause musicale ?
Oui, alors j'avais choisi London Calling du groupe The Clash, qui est un groupe de punk des années 70 en Angleterre et qui pour moi incarne bien l'imaginaire du début de la désindustrialisation en fait. Donc je trouvais que ça faisait sens par rapport au sujet d'aujourd'hui.
Peut-être que tu pourrais revenir aussi sur une part importante de ton travail, un relief intéressant dans la démonstration que tu fais de cette question des mobilisations autour de la de la mémoire de l'immigration dans la région Rhône-Alpes entre les villes de Saint-Étienne et de Villeurbanne. C'est la manière dont les questions mémorielles et les enjeux de mémoire se construisent aussi dans un dialogue et peut-être une tension entre deux types de savoir et deux détenteurs de catégories de détenteurs de savoir, ceux qui relèveraient plutôt du savoir académique ou encore du savoir savant, et ceux qui relèvent plutôt de l'éducation populaire, terme qu'on n'a pas encore employé jusque-là, mais qui est très présente comme toile de fond de ces acteurs, et donc souvent avec un bagage scolaire plus modeste, autodidacte, ou avec des parcours d'auto-formation longs, etc.
Tout à fait. Oui, c'est pour ça que l'une des ambitions aussi de la thèse, c'est de partir de ces mobilisations mémorielles et de voir ce qu'elles nous apportent dans l'étude des mobilisations collectives de façon plus générale. Et donc là, ce qui s'est présenté, ce qui me semble intéressant, c'est l'importance de prendre en compte les rapports sociaux au savoir dans les dynamiques de mobilisation. Et typiquement, dans le cas des mobilisations mémorielles que j'ai observées, mais ça se retrouve dans d'autres contextes, on a des acteurs qui vont avoir une position scolaire élevée, qui sont des universitaires, ou qui vont travailler pour des institutions culturelles, etc. Mmh. Donc on pourrait les appeler des spécialistes, en fait, de la production symbolique, de la production de connaissances.
Des experts.
Des experts. Mmh. Mais on a aussi toute une série d'acteurs qui vont, pour certains, appartenir au monde socio-culturel. On a beaucoup de gens qui ont travaillé dans des centres sociaux, etc. Et qui ont un rapport différent au savoir, qui sont en quelque sorte des autodidactes. C'est-à-dire que pour certains, ils ont repris des études, mais pour d'autres, la mobilisation, ça va être aussi un moyen d'avoir une démarche d'acquisition de ces savoirs savants, d'acquisition de ces savoirs légitimes. Et donc ces mobilisations mémorielles, c'était, je trouve, une belle manière de s'intéresser vraiment à la figure de l'autodidacte, à la place que va prendre l'acquisition de connaissances, les rencontres avec des universitaires, le fait de connecter avec d'autres pratiques, aller pour certains en archives pour la première fois, se mettre à lire dans leur parcours de vie. Mmh. Et donc ça, c'était un petit peu une des surprises finalement du terrain, c'est que ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens dans ma thèse que j'ai appelée des chercheurs par effraction, c'est-à-dire qui...
Jolie formule.
En dehors des voies scolaires classiques, vont s'approprier des pratiques d'enquête, des savoirs légitimes, savants. Donc ça, c'était un élément que j'ai bien aimé découvrir dans l'enquête de terrain.
Et est-ce que tu as observé des phénomènes de réseau, c'est-à-dire entre ces différents types de sachants, on va dire, pour le dire comme ça, est-ce qu'en plus de ça, il peut y avoir des réseaux de connaissances qui opèrent en faveur de ces mobilisations-là? Je ne sais pas, des familles ou des gens qui ont les mêmes origines, qui viennent du même village, qui ont grandi dans le même quartier, qui ont appartenu aux mêmes entreprises peut-être. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est des choses qui ont fait partie des choses que tu as identifiées dans ton travail?
Ouais. Alors, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire provenir finalement d'une même famille. C'était par exemple le cas à Villeurbanne, où finalement, une partie des gens, pas tous, mais une partie des gens qui vont œuvrer à la revalorisation des mémoires du Shaaba dans le cadre du projet de film, en fait, ils font partie de façon élargie de la famille d'Azouz Begag. Mmh. Nièce, cousin, tante, etc. Du côté de Saint-Étienne, il y a l'importance dans le sillage de l'exposition que tu as réalisée au musée de la mine de la ville de Timsrit, en Algérie, et un projet d'action socioculturelle qui avait été créé là-bas à travers le cinéma Le France, mais aussi des figures que j'ai appelées des grands témoins, qui en fait ont un lien particulier avec cette localité. Donc oui, il y a cet aspect-là. Et par contre, sur le milieu mémoriel qui se constitue à la faveur des mobilisations, il y a aussi des éléments, c'est-à-dire que sur, par exemple, les porte-paroles officieux, c'est-à-dire pas reconnus comme tels, du passé migratoire, comme tout à l'heure on a dit qu'ils étaient peu présents dans les organisations syndicales, etc., c'est souvent à la faveur de sollicitations répétées qu'ils vont émerger localement comme grands témoins. Donc il y a d'autres...
Oui, parce qu'on va toujours un petit peu chercher les mêmes.
Voilà, c'est ça. Donc ça crée aussi le rôle du grand témoin de l'histoire immigrée à la faveur, en fait, de séquences de mobilisation où on sollicite.
Et là, ça se déroule plutôt à l'échelle des quartiers, alors? Montréno, Le Babet...
Alors, ça peut être...
Est-ce que tu as des distinctions, là, sur ces...
Alors,
si on revient sur le cas de Saint-Étienne.
Ouais, alors, c'est, j'ai l'impression, ça peut exister à l'échelle du quartier, puisqu'à Montréal, il y avait l'association Vitrine de quartier. Mmh. Mais il y a aussi un entre-soi qu'on pourrait appeler un milieu plutôt mémoriel qui est socialement constitué et qui va être en lien avec les institutions d'enseignement supérieur, l'université, et du coup qui va amener des acteurs à se rencontrer dans les mêmes espaces. Ils vont chacun aller voir les initiatives de l'autre. Ils vont se connaître, étoffer leur carnet d'adresses. Et donc là, finalement, ce n'est pas corrélé à l'appartenance à un quartier. Ça va être vraiment cette action-là, cet engagement-là qui va favoriser un petit peu la consolidation d'un milieu mémoriel. Mmh. Et par exemple, l'association Trace, elle peut avoir aussi ce rôle de rassemblement des acteurs mobilisés sur la question à partir de différents statuts autour de l'enjeu mémoriel en Rhône-Alpes.
Ma question, ce serait aussi, est-ce que tu as rencontré des associations de quartiers? Est-ce que tu peux distinguer des différences, par exemple, des quartiers où elles jouent la part d'immigration joue un rôle plus important dans le travail de mémoire? Je ne sais pas si on fait une comparaison, une idée qui me vient comme ça, entre Le Soleil et Montréal.
Alors absolument, j'ai rencontré les habitants du groupe mémoire, donc de la maison de quartier... du quartier du Soleil. Et justement, ça a eu un effet intéressant sur ma thèse, puisque j'ai vu que dans ce groupe, la question migratoire, elle posait problème au sens où elle allait participer d'une interprétation mémorielle, mais à la faveur finalement des transformations qu'elle a générées dans la vie du quartier. C'est-à-dire que l'immigration... elle est mise en regard d'un passé idéalisé, mythifié. Et donc, la présence immigrée avec des origines visibles...
Fait rupture.
Aurait brisé les sociabilités locales, aurait transformé les manières de créer des affinités. Et donc, j'ai pas pu le considérer comme une mobilisation au même titre que toutes les autres, puisque je m'intéressais aux mobilisations autour du passé migratoire. Mais elle a eu un effet de mise en miroir, et donc elle m'a appris beaucoup de choses aussi.
On observe ça dans d'autres...
Et oui, et là, donc, on arrive voilà, presque à la fin de l'émission, mais je vais te demander d'apporter quelques conclusions. Ça t'ouvre plein de perspectives, finalement. Si éventuellement tu veux continuer à travailler dans cette thématique, tu as parlé de la concurrence des mémoires, mais elle joue aussi dans ce qu'on vient de dire sur cette concurrence des mémoires.
Ouais. Et ça m'a vraiment donné envie aussi de creuser du coup d'autres contextes. Par exemple, aller voir ce qui se joue autour des mémoires de l'immigration dans un contexte plus rural, puisqu'on voit bien qu'en fait on a assez peu de communautés immigrées qui s'affrontent entre elles pour faire triompher leur passé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de discours concurrentiel sur le passé. Et je pense qu'il y a un travers aussi qui veut que quand on s'intéresse aux questions migratoires, on les saisit dans un contexte urbain. Mmh. Et donc moi, l'un des projets, ce serait aller voir les mondes ruraux et du coup, la place que peuvent y trouver ces mémoires.
Eh bien, écoute, Morane, je crois qu'on aurait encore beaucoup de choses à se raconter toutes les deux parce qu'on a des terrains, oui, tous les trois bien sûr, mais des sujets et des terrains de recherche qui se recoupent, y compris dans leurs projections futures.
Bah avec plaisir. Merci beaucoup.
Alors, Morane, on te remercie encore pour toutes ces informations et toutes ces conclusions que tu as tirées de ta thèse. Ce qui m'amène à commencer la présentation de l'agenda par l'annonce, donc le mardi 25 à l'Institut du Travail, de la présentation du livre Sociologie de Saint-Étienne dans l'amphi E01 du site Tréfilerie avec, si je me souviens bien, Georges Guay et...
Christelle Morel-Journel.
Christelle Morel-Journel.
C'est à 18h, donc amphi E01 en effet, c'est gratuit, bien sûr, mardi prochain.
Voilà, et c'est l'ouvrage qu'il faut avoir lu en ce moment.
On rappelle que ce sont plusieurs auteurs, qui ont réalisé cet ouvrage, plusieurs chercheurs, et c'est paru aux éditions La Découverte, ouvrage consacré donc à la ville de Saint-Étienne.
L'actualité du GREMOS, eh bien, c'est notre assemblée générale qui aura lieu le jeudi 27 à 16h, donc à la Maison des combattants et des associations 4 rue André Malraux, où nous parlerons notamment du bilan qu'on peut tirer des rencontres dernières qui étaient faites autour du congrès de Tours et la prise de décision que nous devons faire, puisque vous savez que ces journées ont été coupées en deux et que nous devons reporter la deuxième journée au mois d'octobre.
Oui, pour raison de mobilisation. Justement.
Pour raison de mobilisation.
Je vois que vous ne déplacez pas l'émission radio, en revanche, les jours de grève, ce jour 20 février.
Eh oui, mais tu es requis.
C'est le devoir d'information.
Tout à fait. Non, mais petite boutade.
Bon.
Et puis, là, on va faire aussi le bilan de la série d'émissions que nous avons grand plaisir à faire avec Radio Dio.
À signaler aussi donc, les expositions en cours, donc aux archives municipales, l'exposition sur le quartier Saint-Roch.
Oui, qui s'appelle En chantier et qui porte donc sur le quartier Saint-Roch, son histoire et la manière dont il
essaye de se rétablir.
Comment on peut le regarder comme étant en mutation aujourd'hui à travers différents axes.
Et avec la place qui est en train d'être achevée, voilà, enfin.
Qui devrait être inaugurée
le 6 mars, je crois.
Prochainement.
Entre mutation et patrimonialisation, finalement, aussi.
Exactement.
Dans ce quartier Saint-Roch. Visible jusqu'au 28 juin prochain aux archives municipales à Saint-Étienne.
Et puis au musée Couriau, musée de la mine, l'exposition Cata sur les catastrophes minières, histoire de remonter un peu l'image de Saint-Étienne, n'est-ce pas ? Donc ça nous replonge dans le pays noir et dans ses aspects les moins, comment dirais-je, agréables. Tu vas nous parler de la réunion Trace ?
Oui, la réunion Trace qui a lieu mardi prochain, mais je n'ai pas noté l'heure et le lieu. Ah si, alors c'est à Beaubrun.
Alors oui, c'est la Micaleic Beaubrun. Alors, il faut rappeler juste Trace, Catherine, le réseau régional qui travaille bien sûr sur ces questions migratoires organise une biennale, c'est-à-dire un événementiel.
Tous les deux ans. Au mois de novembre, tous les deux ans, pardon, puisque c'est une biennale évidemment.
Tout à fait, on rappelle que celle de dernière avait été un vif succès en 2018, hein, puisque ce fut 120 propositions en conférences, tables rondes, expositions, conférences et projections de films et j'en passe. 80 structures de toute la région. Donc l'idée est bien sûr de réitérer ce succès en 2020, ce sera l'automne prochain.
Oui, alors, l'idée du fonctionnement de Trace aujourd'hui, c'est de construire, de co-construire les biennales. Donc on invite les différents partenaires et mes partenaires de longue date ou nouveaux qui ont envie de contribuer à la biennale et de prendre langue sur ces questions de mémoire de l'immigration, de rejoindre la réunion pour faire des propositions, simplement s'informer de ce qui peut être fait et trouver des idées. Pour rappel, l'association ne finance pas d'événements, mais elle soutient et elle met en réseau, elle met en lumière les initiatives sur un mois lors de la biennale.
Voilà, donc des réunions se tiennent un peu partout dans ces différentes villes. Et celle de Saint-Étienne aura lieu mardi prochain, 25 février, à 10h. Et c'est à la Micaleic de Beaubrun, donc 14 rue Claude Desverchères à Saint-Étienne.
Merci Lionel pour tes précisions.
Et je peux compléter avec le réseau Trace qui assure aussi, finalement, au-delà de la biennale, tout un travail de communication, alors justement mutualisé aussi, autour des différents événements liés à ces questions migratoires qui se déroulent un peu partout en région. Et j'en profite juste deux secondes aussi, peut-être, pour rappeler quelques événements, puisque le réseau Trace présente l'expo actuellement visible du côté du musée de la résistance et la déportation, donc dans le département du 01, dans l'Ain, intitulé « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Et c'est visible jusqu'au 30 avril prochain. Et c'est une expo aussi qui se décline en rencontre. Projections et autres temps de poésie également.
C'est une très belle exposition qu'il faut absolument ne pas rater quand on est dans la région. Elle a déjà un peu circulé et j'espère que vous serez nombreux à aller la voir.
Et une autre expo qui est encore visible, Trace rappelle également ce rendez-vous, c'est jusqu'à la fin de ce mois de février, jusqu'au 29 février, c'est la médiathèque de Montélimar qui propose une expo intitulée Exil et carnet de voyage. Là aussi, c'est situé donc à la médiathèque intercommunale, maison des services publics, 1 avenue Saint-Martin à Montélimar. Au cas où vous passiez quelques jours en vacances dans la Drôme, pourquoi pas. Et puis, Trace a d'autres rendez-vous. On était dans la région lyonnaise à Villeurbanne avec Morane. Et bien précisément, le cinéma Le Zola, qui est Cour Émile Zola, propose une soirée ciné-débat autour de la Cour de Babel. et c'est ce 21 février, donc c'est demain, si vous chopez là, le rendez-vous et les rediffusions, ou aujourd'hui, donc ce vendredi 21 février à 20h, soirée ciné-débat, la cour de Babel, c'est avec le CMTRA, le Centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, et le cinéma, le Zola, bien sûr, qui propose ce film de 2013 de Julie Bertuccelli. Voilà, autre rendez-vous, et là ça permet aussi de raccrocher avec le Grémos. Michel Zancarini-Fournel est une historienne, membre du Grémos, qui interviendra à Lyon précisément ce samedi 22 février à 18h au Théâtre de l'Élysée, situé 14 rue Basse-Combalore à Lyon. Projet Écho de la Fabrique, c'est une conférence que Michel Zancarini-Fournel proposera à propos des Canuts, et notamment auteur, elle, de l'ouvrage Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Voilà, rendez-vous pour ce samedi 22 février. Et puis, on continue notre petit agenda avec juste deux petites infos pour conclure. Je voulais rappeler les références musicales qu'on a pu écouter, celles qu'on entend encore en fond sonore. C'est une sortie prévue pour le 17 avril prochain. C'est Rémi Godilla Sextet, donc on est aussi dans la production aussi là, artistique locale, qui sortira cet album électrique extension, avec pour invité prestigieux Louis Clavis par exemple. C'est ce que nous avons écouté en respiration musicale. On a écouté sur les propositions de Moran The Blaze, Territory. On a écouté London Calling des Clash, ça tombait plutôt bien. On a fêté les 40 ans de l'album, ce troisième album des Clash, en année 2019. Et puis surtout, les Clash avaient eu l'occasion de participer à, par exemple, aussi ces grandes manifestations, grands concerts, événements. C'était fin des années 70, Rock Against Racism. Et il y a eu sa déclinaison finalement française, nationale, avec Rock Against Police, dont on a ici diffusé des épisodes. Et simplement dire que ce film a été... parce que cela a fait l'objet d'un film en avant-première du côté de la cité ou musée de l'histoire de l'immigration. Mm-hmm. C'est un film de Nabil Djedouani. Il est né ici à Saint-Étienne, mm-hmm, en 1984. Rock Against Police a été diffusé début d'année sur le musée de l'histoire de l'immigration, et simplement rappeler que ce film sera projeté aussi à Saint-Étienne au mois d'avril-mai prochain, dans le cadre de la quinzaine Lorraine Cœur d'Acier, une quinzaine festive qui tiendra à Saint-Étienne. Ça me permet de faire transition. Ça va se passer du 24 avril au 8 mai. Ce film-là sera projeté à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Il y aura diverses propositions, nombreuses, hein, pour cet événement stéphanois autour de Lorraine Cœur d'Acier. Là aussi, un événement anniversaire, une radio pirate assez fondatrice. Il se passera beaucoup de choses à Saint-Étienne. Radio en direct, exposition, spectacle, atelier, film... projection, discussion, la liste est longue. Le Grémos assurera une conférence d'ailleurs en présence d'Alban Graziotin. On aura l'occasion de rappeler ce rendez-vous autour des luttes d'hier et d'aujourd'hui à Saint-Étienne. Mais pas seulement, ce sera du local au global. On rappellera la date, mais rappeler simplement que ce samedi aura lieu un des premiers temps forts finalement de cet événement en préambule. Ça se passera à la maison de quartier, ou au centre social plutôt, le Babet, qui est situé rue Félix Pia à Saint-Étienne, donc dans le quartier tarentaise. Une collaboration là avec les Héroïnes, association de vidéastes stéphanoises à Saint-Étienne, qui a décidé de donner la parole aux femmes et de savoir utiliser aussi cet outil qu'on a tous en main ou en poche, qui est le smartphone, et qui peut être utilisé en usage à la fois audio, à la fois audiovisuel, vidéo également, photographique. Et une formation a lieu le 22 février, ce samedi, de 10h à 15h, donc au centre social Le Babet. Pourquoi ne pas vous y rendre? Et cela fera l'objet d'une soirée spéciale pendant l'événement au printemps prochain. Voilà, mais on renvoie sur votre site, le Grémos, pour boucler, grémos.l'autre.net, et avoir toutes les informations nécessaires. Voilà pour cet agenda à fournir.
Merci beaucoup, Lionel. Et merci, Morane, de ta venue.
Merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir.
La prochaine émission du Grémos, tu peux nous dire, Jean-Michel, le thème ?
Normalement, le troisième jeudi, ça doit être 19 mars, puisque nous sommes une année bissextile.
Et va-t-on parler d'Algérie ?
Je sais pas.
19 mars.
Ah oui, effectivement.
C'est encore surprise pour la thématique du mois prochain.
Tout à fait.
On se retrouve donc le troisième jeudi de mars prochain. Merci à vous. Bonne fin de journée.
Au revoir.